Thierry Cosignac, je suis responsable de l'équipe TIS à Paris Descartes. Donc effectivement, après Amandine qui a la tête dans les nuages, moi je me propose d'être l'utilisateur final qui a les mains dans le cambouis. Et donc je vais vous parler de Software as a Service, même si je n'ai pas l'accent anglais de Mariana, mais c'est un vrai plaisir d'être ici pour cette institution. Donc voici une petite métaphore pour parler du SaaS entre une vision très champêtre, je crois que c'est les environs de Lucerne en Suisse et la mégalopole japonaise. Donc les crédits photos sont de John Ogeri, ici présent, qui est par ailleurs grand maître conception et usage des diaporamas. Donc ce sera sûrement dit à nouveau à la fin de cette présentation, mais tout ce diaporama, c'est John qui l'a réalisé. Donc j'en viens au cœur du sujet, qui est de dire que cette métaphore sur un paysage champêtre serait le degré 1 de la maturité dont nous a parlé Nicolas par rapport à un projet IT. Et le degré 5 serait d'avoir un SI complètement urbanisé, avec effectivement des architectes, des urbanismes, des gens qui sont dans l'innovation et qui se préoccupent de basse consommation, de bâtiments à basse consommation. Et on ne peut pas avoir du software as a service et sur du cloud si, par ailleurs, on n'a pas un système d'information dans l'établissement qui est capable de supporter l'accès à ces services en cloud. La réflexion que je vous propose, elle a été nourrie par les rencontres que j'ai eues dans le hall d'exposition d'Educause, hein, parce qu'il y a effectivement des milliers de participants à Educause, il y a des dizaines d'ateliers en parallèle, ce qui était très bien qu'on soit plus d'une dizaine présents, parce que c'est toujours un crève-cœur de se dire « je ne peux pas participer à plusieurs ateliers qui sont formidables par rapport à mon sujet et je n'ai pas encore le don d'ubiquité ». Et il y a aussi un hall d'exposition. Cette année, il y avait 270 stands hein, dans un hall foire de Paris, porte de Versailles. Et donc, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir aller dialoguer avec tous les éditeurs, tous les acteurs du marché pendant cette période. Et donc j'en ai tiré quelques idées que je vous soumets qui sont forcément partielles par rapport à tout ce qui s'est dit pendant la conférence. Donc potentiellement, comme je l'ai écrit, tous les services qui sont proposés par soit des entreprises, soit des communautés open source peuvent être mis en cloud dans le cadre de ce qui est proposé aux États-Unis. Donc les éditeurs ont des solutions d'hébergement qui ne sont pas forcément en propre sur leur serveur. Ils font appel à Amazon, ils font appel à Google et à d'autres prestataires spécialisés en cloud. Quant à l'open source, adossé à des sociétés de services spécialisées, comme on verra tout à l'heure, que sont par exemple AirSmart ou Unicon, donc ces sociétés de services proposent aussi du cloud. Ce ne sont pas les communautés elles-mêmes qui font du cloud. On constate aussi que les établissements US, je rebondis sur ce que disait Amandine, n'ont pas la frilosité que nous avons, nous, par rapport à l'usage de services web 2.0 hébergés ailleurs. Je dis frilosité, mais c'est aussi pour nous un vrai problème déontologique. Si on me propose, j'en reviens au TIS qui est mon cœur de métier, mais si on me propose de faire une activité pédagogique dans un amphi où on utilise Twitter et un mur de tweets pour avoir un retour interactif des étudiants, ça me pose problème. Je ne peux pas dire aux étudiants, vous êtes obligé de créer un compte Twitter pour participer à cette activité. Donc il faut qu'on trouve des alternatives par rapport à ces solutions des établissements américains. Utiliser Facebook, c'est pareil. Certes, c'est très bien pour avoir de la visibilité, de la notoriété et faire de la communication virale sur des pages Facebook pour nos établissements ou dans le cadre pédagogique, mais personnellement, à Paris Descartes, on préfère avoir un réseau social interne, un réseau social académique dont nous maîtrisons entièrement le contenu, la politique éditoriale derrière et surtout la charte d'usage de ce réseau social. Donc, j'ai aussi noté, disons que c'est plutôt un effet de bord, que Educause utilise beaucoup de services hébergés dans le cadre de cette entité, à savoir si vous recevez des mails qui vous proposent de répondre à des enquêtes sur des panels d'Educause, ce sont des services qui sont hébergés par des sociétés tierces. De la même façon, leur communication, même le stockage de tous les documents du site web d'Educause, qui est énorme, hein, c'est une ressource gigantesque, sont stockés en cloud. Et donc proposés dans un cadre software pas vraiment un cadre software as a service, je déborde un peu. Donc, le business model dont on parle depuis tout à l'heure sur les universités américaines, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent qui leur proviennent des différentes sources qui sont notées là. Ils sont très organisés au niveau du funding par leurs anciens, par leurs alumni, hein, chose qui émerge petit à petit dans le cadre des universités françaises ou des communautés. Ça leur permet quand même malgré la crise actuelle, de se payer un certain nombre de services dont on ne peut pas rêver au sein de nos établissements. La solution possible, c'est soit c'est les éditeurs qui proposent ces solutions via le groupe logiciel existant, ont des tarifs négociés, mais vraiment très très négocié à la baisse pour nous permettre, nous universitaires, d'utiliser ces outils en tant que software as a service. Là, c'est dans le cas effectivement de services qui sont propriétaires auxquels qu'on ne pourra pas héberger dans des clouds universitaires quand ils existeront. Effectivement, mutualiser ces coûts dans des clouds interuniversitaires est l'autre piste qu'on est en train de voir à travers l'expérience d'UnifCloud. Un petit tableau lui-même très, très partiel, hein. Encore une fois, j'aurais pu l'augmenter de tous les exemples qui étaient donnés de tous les éditeurs qui disent, en fait, quand on va sur un stand et qu'on leur dit, moi j'ai Moodle dans mon université, sur mes serveurs, ils me regardent et ils me disent, ah oui, bah, effectivement, vous en êtes quand même à l'âge de pierre. Hein. Ces solutions commerciales, j'ai voulu montrer un commercial versus open source. Les PGI, les ERP, bon, on en a parlé, hein. Il y en a un certain nombre, ils ont tous leur solution, comme ils disent, hosting, mais l'open source aussi. Le PGI Qali, qui est développé par une communauté open source, est adossé à une société de services en logiciel libre, une SS2L, qui s'appelle AirSmart, et donc qui vous propose d'utiliser ces outils de gestion en software as a service. De même, des briques qui peuvent s'agencer dans votre SI, tel le Student Success Plan, qui était aussi un des sujets très abordés ces dernières années à Educause, à travers les Learning Analytics, de savoir comment on fait en sorte que les étudiants ne décrochent pas, comment on a des tableaux de bord qui nous permettent de savoir qu'un étudiant est en difficulté par rapport au service numérique qu'on lui prodigue, et aussi donc Success Plan, parce qu'on veut que les services numériques leur permettent de réussir leurs études au mieux. Donc adossés à une autre société qui s'appelle Unicon, sont vraiment deux grands acteurs du marché des SS2L dans le monde universitaire. Je trouve que c'est un modèle très vertueux au sens où ils embauchent en fait des docteurs qui viennent des universités qui ont travaillé dans la communauté open source sur les produits, et ils les embauchent comme support sur ces produits ou développeurs. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler des plateformes d'enseignement, des LMS, Yves a évidemment beaucoup parlé des MOOC. On peut considérer évidemment Blackboard, Desire to Learn, Canva, qui était pas mal en poupe cette année dans le cadre d'Educause, hein, comme nouvelle plateforme émergente. Canva est en SaaS sur Amazon, qui leur permet effectivement de dire, on vous propose d'ouvrir autant de machines virtuelles que vous voulez, Canvas, vous pouvez faire du MOOC avec, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a un MOOC en France qui est basé sur Canvas. De la même façon, EDX, Coursera et Udacity sont tous hébergé sur Amazon. Quant à, aux solutions open source telles Moodle ou Sakai ou d'autres, ils sont aussi adossés à des acteurs privés. Moodle Rooms, par exemple, est un énorme acteur de prestation de services sur Moodle, ainsi qu'ils ont développé aussi un module spécialisé qui s'appelle Joule. Et en fait, c'est une surcouche qui est sur Moodle et qui permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités, mais c'est complètement hébergé chez eux. Pour l'anecdote, quand même, il y a 2 ans, ça avait été annoncé aussi à EduCause et ça avait fait pas mal de remous et de buzz, c'est que Moodle Rooms a été racheté par Blackboard. Et quand on va, j'ai eu la discussion avec Moodle Rooms sur le stand de Blackboard, alors que l'année dernière, dans le stand d'exposition, il y avait un superbe stand de Moodle Rooms qui n'existait pas cette année. Évidemment, Sakai est supporté par les deux grands acteurs de la communauté open source, ou plutôt les deux grandes SS2L dont je vous parlais. Quelques exemples de solutions métiers, type stockage de documents, travail collaboratif. C'est un vrai enjeu. Dropbox, Google Apps, comme on a déjà dit, on ne peut pas empêcher les étudiants, on ne peut pas empêcher les enseignants-chercheurs d'aller mettre leurs documents ailleurs que dans notre système d'information. Maintenant, il y a une réponse actuellement qui est en train d'être adressée par la communauté Apereo. Il faut savoir qu'Apereo, c'est la fusion de la communauté JASIG, qui développe UPortal, sur lequel est basé notre portail ESUP, et Sakai. Donc la plateforme d'enseignement à distance. Donc Apereo égale JASIG plus Sakai est en train de travailler avec une subvention de la New Generation Learning Initiative d'EduCause donc pour développer ce qu'ils appellent le Open Academic Environment, OAE. Ils sont venus en France travailler il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a des liens étroits entre Apereo et la communauté ESUP. Cette solution OAE a été aussi proposée au ministère de l'enseignement supérieur comme étant une solution alternative à Dropbox ou à d'autres outils de travail collaboratif. Et donc OAE a été entièrement pensé pour être dans un cloud. Bon, je passe rapidement sur, évidemment, les solutions de Content Management System, les CMS, telles Drupal ou autres, sont adossées à des sociétés. Par exemple, Drupal est adossé à Akia, qui était présent à Eunice cette année, qui avait un gros stand à EduCause cette année. Je dirais la taille des stands vous donne aussi l'évolution de l'influence d'un éditeur ou d'une société. Disparition d'un stand, apparition d'un stand, ça fait déjà quand même bien 5 ans que Apple n'a plus de stand à EduCause, par exemple. Alors le stand de Microsoft est passé de quelques centaines de mètres carrés à une vingtaine. Bon. Voilà. Et petit coucou aux amis de Microsoft. Et un dernier exemple, que sont les outils vidéo qui peuvent être complètement online, avec des chaînes éditoriales. Le stockage vidéo, c'est complètement quelque chose qui, dans le cadre des plateformes d'enseignement, on n'a pas vocation à stocker les vidéos en interne, mais évidemment de les mettre en software as a service, et même les chaînes éditoriales maintenant sont accessibles en ligne. Donc il y a une solution qui s'appelle Kaltura, que je vous conseille d'aller regarder, qui est très complète et qui a, comme souvent dans ce type de produits open source, une solution Community Edition et une solution Premium avec services associés et hébergement associé. Voilà ce que je voulais vous dire sur le SaaS. Merci.
Moi, j'ai une remarque. Quand on était à San Diego, à UCLA et à San Diego, c'est encore plus manifeste. Je vois quand même une distinction entre un cloud privé où ils gardent, je dirais, des informations un peu plus confidentielles et un cloud extérieur. Par exemple, j'étais très frappé de voir que le courrier d'étudiants était sur Gmail ou Microsoft, le courrier du personnel restait en interne, et ils avaient tout le stockage de recherche qui était dans le cloud, dans le cloud interne.
Et effectivement, c'est quelque chose que c'est un modèle qu'on utilise, qu'on utilise aussi en France, à avoir hébergé en local la messagerie du personnel et surtout des enseignants-chercheurs, des labos quand ils le demandent, et le mail des étudiants, où effectivement, là, il n'y a pas de problème, on n'hésite plus à le mettre ailleurs que sur nos serveurs.